Il fallait du courage pour se lancer dans l'écriture de la biographie d'un des plus grands intellectuels français du XXe siècle, celle de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, mort à l'âge de 101 ans en 2009. L'historienne Emmanuelle Loyer a relevé le défi. Elle en a d'ailleurs été récompensée par le prix Femina de l'essai et 60 ans après la publication de Triste Tropique. Cette biographie permet donc de redécouvrir le fondateur de l'anthropologie structurale. Emmanuelle Loyer revient pour la seconde partie de cette tête au carré consacrée donc à Claude Lévi-Strauss avec à ses côtés l'anthropologue Frédéric Keck. Et nous les retrouverons donc dans un instant. Ils ont fait la une de la science cette année et aussi nous allons les retrouver quelques mois plus tard pour faire le point sur leur découverte. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, notre ancêtre mystérieux Homo naledi.
Et oui, c'était le 10 septembre dernier, 15 squelettes découverts dans la grotte de Rising Star en Afrique du Sud sont présentés au public. Des ossements qui ressemblent à la fois aux australopithèques mais aussi aux premiers Homo. Une petite bombe sur laquelle on revient aujourd'hui avec Yves Coppens et Laurent Brussel.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La biographie de Claude Lévi-Strauss, donc, qui est parue aux éditions Flammarion et qui fait l'objet d'une seconde émission cet après-midi dans La Tête au Carré avec Emmanuelle Loyer et Frédéric Keck. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Emmanuelle Loyer. Est-ce que vous avez rencontré Claude Lévi-Strauss de son vivant? Je ne vous ai même pas posé la question lors de la première Tête au Carré.
Je l'ai rencontré brièvement à trois ou quatre reprises au début des années 2000. Il était déjà un très, très vieux monsieur, toujours très courtois. Mais il m'a dit à ce moment-là, vous auriez dû venir 10 ans avant. Les souvenirs auraient été plus frais et l'homme aussi.
Oui, mais alors donc vous lui aviez déjà proposé l'idée d'une biographie à l'époque?
Non, pas du tout. Non. C'était simplement pour un travail sur New York et l'exil intellectuel oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale.
Quels souvenirs vous gardez de cette rencontre?
Eh bien, monsieur, comme je vous disais, très très fragile, d'une sorte de politesse, un peu grand siècle, un homme déjà d'un autre monde, d'une certaine façon.
Ouais. Frédéric Keck, vous avez eu la chance de pouvoir le côtoyer à de nombreuses reprises, à la fin de sa vie en particulier, hein, pour préparer la Pléiade, entre autres. Est-ce que Lévi-Strauss était soucieux du devenir de ses écrits après sa mort?
Il n'y était pas attaché comme un héritage et il ne voyait surtout pas en moi un disciple et il m'encourageait à développer mes propres travaux, ma propre pensée même, comme il disait, plutôt que de continuer à écrire sur son travail.
Et vous vous considérez quand même comme un disciple de Lévi-Strauss aujourd'hui ?
Je me considère en tout cas comme en charge de cet héritage intellectuel.
Ouais. Allez, vous restez avec nous, on va se retrouver donc ensemble dans un instant pour évoquer de nombreux épisodes de sa vie qui n'étaient pas justement à l'occasion de cette première émission qu'on avait fait ensemble. Ce sera dans quelques instants avec ce livre Lévi-Strauss, biographie chez Flammarion. C'était le 10 septembre dernier, le paléoanthropologue Lee Berger annonçait face à la presse du monde entier sa découverte, sans doute un des événements les plus suivis cette année en paléoanthropologie.
C'est la découverte de fossiles la plus importante et la plus significative de nos cousins éloignés jamais faite en Afrique. Plus de 1500 restes appartenant à 15 individus, des bébés, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes et des vieux. Vraiment, l'espèce est remarquable. C'est une combinaison de ce qu'on a trouvé jusque-là et qu'on n'a jamais vu.
Voilà, et pour revenir sur cet événement majeur de l'année, nous recevons aujourd'hui Yves Coppens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, découvreur de la célèbre Australopithèque Lucie, puis par téléphone nous accueillons Laurent Brussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géoarchéologue et vous avez travaillé à la datation, entre autres, d'un autre ancêtre très célèbre, Littlefoot. Laurent Brussel, pourquoi cette grotte en Afrique du Sud et ses 15 squelettes sont une découverte si importante pour l'étude de nos origines, avec donc Homo naledi?
Mais déjà, découvrir autant de vestiges dans une cavité qui correspondent à une même espèce, c'est déjà un grand scoop. On se situe dans cette région, dans ce que l'UNESCO a baptisé en 1999 le berceau de l'humanité, à la fois parce que ça couvre une période temporelle clé entre moins 4 et moins 1 million d'années, mais aussi parce que dans cette région, il y avait déjà connu près de 1000 vestiges d'hominidés anciens, c'est-à-dire un tiers de ce qui est connu partout ailleurs. Et avec cette nouvelle découverte, on en rajoute 1500, donc on passe à 2500 vestiges osseux sur 4500, c'est-à-dire qu'on a là, dans cette région-là, maintenant plus de la moitié des vestiges anciens connus. Donc ça montre un petit peu tout le potentiel de ce secteur, et la richesse de ces grottes. Donc tout reste à découvrir et cette découverte est exceptionnelle puisqu'elle révèle encore plus cet aspect des choses.
Oui, il y a encore un potentiel incroyable puisque je crois que c'est 700 grottes qui ont été répertoriées dans la région. Hein.
C'est ça, en tout 700 grottes ou 700 entrées de grottes et dans la région il y en a une douzaine ou une quinzaine qui ont été fouillées, vous voyez, donc tout ce qui peut rester comme remplissage et donc comme vestige à l'intérieur.
Oui, alors ce qui est intéressant dans ce rendez-vous, c'est de revenir justement sur ce fait marquant de l'actualité et depuis, Yves Coppens, vous êtes revenu en tout cas sur vos déclarations puisque pour vous, Homo naledi était un australopithèque.
Oui, c'est-à-dire que j'ai vu la reconstitution d'un des crânes. Ça ressemble en effet à Homo erectus. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que cette grotte est toute proche de la grotte de Swartkrans. Alors c'est pas une raison, parce que les remplissages peuvent être différents. Ce sont des karstes, donc les remplissages se font à n'importe quelle époque. Mais à Swartkrans, depuis très longtemps, d'une part le docteur Broome, que je n'ai pas connu, mais son assistant John Robinson, que j'ai connu, avait découvert un très vieil australopithèque, très robuste australopithèque, qui s'appelle le Paranthropus robustus, hein, robustus comme son nom l'indique, et il était aux côtés d'un autre qui avait déjà été bien distingué et qu'ils avaient appelé Telanthropus capensis. Et Telanthropus capensis, depuis, est devenu Homo erectus, c'est-à-dire qu'il y a coexistence, qu'on connaît ailleurs en Afrique de l'Est, entre cet australopithèque, ce préhumain qui perdure, et puis déjà une forme humaine, je dis pas avancée, mais enfin pas la première. Quoi.
Axel.
Laurent Bruxelles, vous êtes entré dans cette grotte, et c'est elle qui pose tous les problèmes pour dater ces fossiles.
Ben oui, effectivement, puisque il y a toujours une difficulté à dater les fossiles, soit on date les fossiles eux-mêmes, mais les essais qui ont été faits pour des fossiles de cet âge-là ont donné des âges avec des grandes périodes, des grandes fourchettes d'incertitude, et puis ça implique aussi de détruire un os ou une dent ou quelque chose comme ça. On n'est pas toujours disposé à le faire, donc en général, il va falloir se reporter sur les sédiments qui sont associés aux fossiles. Et là, dans ce cas-là, il va y avoir deux choses. Il va falloir d'abord faire la preuve que les sédiments que l'on date et le fossile ont la même histoire, ou en tout cas ont le même âge. Et ensuite, il va falloir étudier la stratigraphie, c'est-à-dire soit les squelettes sont associés avec des sédiments, on date les sédiments, soit ils sont recouverts par d'autres sédiments, et notamment par de la calcite, qui est formée par les écoutements de la voûte, hein, donc par les stalactites. Et donc cette calcite va venir recouvrir les ossements, et on sait, elle aussi, la dater. Dans ce cas-là, les os étaient au sol, mélangés de la terre, en partie remaniés. Donc la question, c'est d'où viennent-ils ? Alors, il y a un élément, mais c'est un travail qu'il faut aller faire dans la grotte, c'est que contre l'une des parois, il resterait apparemment des lambeaux de brèche dans laquelle sont pris initialement les os, qui parfois s'altèrent et donc va retomber au sol, va former une sorte de terre, si vous voulez, de sédiments meubles avec les os. Et sur ces lambeaux de brèche qui sont contre la paroi, eh bien, on a de la calcite. Et si j'ai bien compris, l'équipe a essayé de dater cette calcite, mais les résultats ne sont pas bons, enfin, donnent des grandes incertitudes.
Il y a une autre question qui reste et qui fait partie de votre débat qui reste irrésolue, c'est comment ces os sont arrivés ici. Lui, Liberger, pense que c'est un dépôt d'humains. Vous pouvez l'écouter lors de la conférence de presse.
Mais le plus surprenant, c'est ce qu'ils faisaient dans cette grotte. Mes collègues du monde entier et moi-même avons étudié ces fossiles depuis plus de 2 ans. On a étudié le contexte et on est arrivé à la conclusion que cette espèce dominée déposait délibérément ses morts à cet endroit-là. Ils faisaient une descente dangereuse dans cette cavité pour y jeter leurs morts dans ce lieu inaccessible à d'autres. C'est une chose qu'on croyait réservée à nous, les hommes, et qui faisait notre différence, eh bien, plus maintenant.
Alors Yves Coppens, la question c'est, est-ce que Erectus avait ce genre de pratique ?
Alors moi je crois, mais je ne peux pas le démontrer, que l'homme est homme dès qu'il est homme. Ça veut dire qu'il a tout de suite ses facettes intellectuelles, cognitives, esthétiques, éthiques, spirituelles, tout ce que vous voulez. Et bien sûr que ça s'est affiné au fil des âges. Pourquoi ne serait-ce pas, en effet, des restes humains déposés là de manière intentionnelle ou pour s'en débarrasser parce que c'est pas très bien quand ça se décompose, ou pour des raisons plus rituelles, ce que, ma foi, il faut pas repousser a priori.
Alors Laurent Bruxelles, pour terminer, Homo naledi nous avait été présenté par Lieberger comme étant une nouvelle espèce. Quand est-ce qu'on va pouvoir trancher réellement entre Homo erectus et une nouvelle espèce, justement?
Ben, quand les travaux d'anatomie vont se poursuivre, alors vous me disiez en dehors du micro tout à l'heure qu'il va y avoir des essais d'ADN, ça va peut-être aider, dans la mesure où on retrouve des brins d'ADN. Mais si c'est ce que je pense et si c'est ce que l'on trouve ailleurs en Afrique du Sud, ça sera sans doute Homo erectus. Mais c'est bien de donner un autre nom tout de suite parce qu'on sait à quoi on a affaire. Et entre nous, c'est commode. Et puis ensuite, on rentre dans une systématique plus classique.
Laurent Bruxelles.
Alors effectivement, qu'il y ait eu de l'inhumation volontaire, on ne sait pas encore la date. Donc si ça se trouve, la datation va changer notre perception des choses et la rendre encore plus possible. Mais ce qu'on maîtrise mal, ce qui est sûr, c'est la géométrie de la grotte. C'est-à-dire que très vite, l'équipe a dit il n'y a pas d'autre entrée, c'est la seule entrée possible, donc ils ont été amenés là dans le noir. Et ça pose quand même pas mal de questions. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de géologue qui est allé dans cette partie de la grotte, voilà, parce qu'elle est très très étroite. Le géologue qui dirige cette fouille avec Lieberger n'a pas pu s'y rendre, donc personne n'a pu voir vraiment dans cette salle quelles sont les possibilités. Et on sait que les grottes dans ce secteur-là sont extrêmement labyrinthiques avec des entrées multiples et on n'en maîtrise absolument pas la géométrie. Ensuite, la question d'apporter des corps par le parcours actuel, ce qui est prôné, disons, par l'équipe, alors ça me laisse encore plus perplexe parce que j'y suis allé. Je suis spéléologue, hein, donc voilà, je suis pas très grand. J'ai pu passer dans des passages très étroits, et effectivement, ils sont très étroits. C'est la première fois que je me casse une côte en passant dans un boyau étroit dans ma vie de spélo, donc c'est pour vous dire que c'était exceptionnellement étroit. Et alors là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, c'est comment on peut transporter 15 corps, ou même des morceaux de corps, dans ces boyaux. Techniquement, c'est un effort exceptionnel. Et puis, il y a une troisième question qui vient s'ajouter à celle-ci, c'est que dès qu'on a passé la première étroiture, qui est un coude à 90 degrés, qui est extrêmement technique, eh bien, on est dans le noir total. Donc, ça veut dire aussi qu'il fallait s'éclairer. Donc là, après, vient tout le problème de l'éclairage, de comment ils sont allés jusque-là, etc. Mais... ça soulève beaucoup de questions.
Ouais. Yves Coppens.
Oui, ben c'est ça. Il faut que le feu soit déjà connu, ce qui complique un peu les choses. Mais enfin, le feu, quand même, prend de l'âge, si j'ose dire. On a parlé de 400 000 ans pendant très longtemps parce que oui. Delumelet imposait sa date. On en est aujourd'hui à 800 000 possibles. Ouais. Je ne sais pas, moi bon. je ne saurais pas vous dire. Hein. Je ne connais pas encore les lieux, mais j'espère bien y aller.
Merci Yves Coppens, merci Laurent Bruxelles pour vos explications. Donc il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens hein, autour de Homo naledi, un des événements en paléanthropologie de cette année 2015.
Ah ça c'est incontestable, c'est vraiment de toute façon une très 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 belle découverte et très très étonnante découverte.
Merci Yves Coppens, merci Laurent merci. Bruxelles, merci Axel.
À demain Mathieu.
À bientôt. Et dans un instant, Claude Lévi-Strauss.
Tu penses que ta vie est sans grande importance, que les mots qui te viennent n'ont pas vraiment de sens. Dans ta tête, il y a des bruits, tu te sens animal. Tu restes dans ton lit quand tu dis je t'as mal. En piqué, tu plonges sans en avoir l'air. Je sais pas ce qui te ronge, c'est pas très clair. Je sais pas ce qui te ronge, mais tu t'en tais. Des couteaux qui venaient caresser ta peau. Tu portais ta haine en bandoulière. Toi et les autres, c'était la guerre. Le gouffre qui t'appelle, tu descends en rappel. S'entends l'odeur. chemin ne va pas plus loin. Il va falloir que t'improvises.
Bagarre avec le gouffre.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
Claude Lévi-Strauss, donc une biographie signée Emmanuel Loyer qui revient pour cette seconde Tête au Carré avec l'anthropologue Frédéric Keck. Emmanuel Loyer, vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste d'histoire intellectuelle et culturelle. Frédéric Keck, vous êtes anthropologue, chercheur attaché au laboratoire d'anthropologie sociale fondé justement par Lévi-Strauss et vous êtes également directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly. Vous avez publié de votre côté en 2009 avec Vincent Debanne, Claude Lévi-Strauss, L'homme au regard éloigné chez Gallimard, et donc vous avez contribué également à l'édition de ses œuvres dans la Pléiade en 2008. Pour commencer notre discussion, la voix de Lévi-Strauss.
Je n'ai jamais été en réalité un homme du siècle où le hasard m'a fait naître. J'ai toujours été passionné pour des curiosités exotiques ou des curiosités d'antiquaires et dans l'esprit j'ai toujours vécu ailleurs ou à d'autres époques que la mienne. Je me sens, en réalité, nous parlions de Rousseau, nous parlions de Chateaubriand, je me sens beaucoup plus un homme du 18e, ou peut-être du 19e siècle, davantage encore, qu'un homme de ce siècle où, en réalité, tout ce que j'aime, tout ce à quoi j'attache du prix, je ne suis pas en train de faire son procès ni de le condamner, c'est une confession autobiographique, n'est-ce pas, que je suis en train de vous faire, eh bien, tout ça est en train d'être détruit et de disparaître. Moi, j'aurais aimé vivre à une époque où, disons, les moyens de communication étaient déjà suffisamment rapides pour qu'on ne passe pas toute son existence, comme Marco Polo, à traverser le monde. Mais où, en même temps, le fait de voyager pendant 3 mois sur la mer vous amenait à une expérience totalement irréductible à celle dans laquelle on a vécu. Tandis que maintenant, nous prenons l'avion, nous y sommes en 8 heures, en 10 heures ou en 12 heures, et puis qu'est-ce que nous retrouvons? C'est une aérogare qui est exactement identique à celle que nous venons de quitter.
Voilà, c'était en 1984, dans apostrophe, au micro de Bernard Pivot, Emmanuel Loyer. Donc, Lévi-Strauss a vraiment été l'homme d'un autre siècle que le sien.
Alors ça, c'est quelque chose de très important. En effet, cette présence du passé et de différentes strates temporelles aussi en lui. Il dit que c'est un homme du 18e ou peut-être même du 19e. On pourrait aussi dire un homme de la Renaissance. Mmh. Et cette non-adhésion, finalement, à son présent, et cela assez tôt, en fait, dans sa biographie. Ce qui est intéressant, c'est que, comme il dit dans cette archive, ce n'est pas une condamnation, mais enfin, il va faire fonctionner cet écart, cette façon de ne pas être de son siècle, de façon critique, pour voir des choses. C'est un peu toute la dynamique du regard éloigné qui se joue à ce moment-là.
Ouais. Qu'est-ce qu'il répondait quand on l'interrogeait sur sa filiation avec Jean-Jacques Rousseau, Frédéric Keck?
Il se réclamait de Jean-Jacques Rousseau pour... l'identification à autrui à travers la pitié. Donc cette forme de relation affective au vivant, que ce soit les hommes ou les animaux, qui en même temps produit des formes intellectuelles et également des relations politiques, donc à une espèce de contrat social basé sur l'état de nature.
Emmanuel Loyer.
Oui, il y voit le fondateur des sciences sociales et il a d'ailleurs écrit un texte très beau à ce propos sur Rousseau pour à Genève en 62.
Alors, nous nous étions quittés lors de la première émission sur les deux expéditions que Lévi-Strauss avait menées au Brésil auprès des Indiens et qui lui avaient permis d'aller au fondement des choses et des êtres. Il partait, vous écrivez, Emmanuel Loyer, en quête d'un monde enfoui. C'était ça, au fond, son initiative ?
Chez lui, disons la traversée vers l'autrui de plus en plus radical, c'est aussi finalement une traversée dans le temps. Et on le voit très bien à son retour, lorsqu'il revient au contraire vers la civilisation, c'est aussi une remontée vers le présent et un présent qui devient un présent tragique, parce que c'est le présent de la guerre. On est là en 39, lorsqu'il revient ensuite en Europe. Quoi.
Ouais. Ces carnets de terrain, ça, ce sont des éléments très importants également pour la biographe que vous êtes, sur lesquels vous avez pu travailler énormément, puisqu'il a consigné beaucoup de choses dans ces carnets.
Ah bah oui, c'est toujours évidemment très intéressant de voir ces carnets qui sont conservés. On peut aller les voir au département des manuscrits et on y voit vraiment l'ethnologue au travail. Ouais. Donc ce sont des documents où il y a aussi bien, enfin c'est des choses qu'on connaît maintenant, mais enfin des fiches linguistiques, des annotations, mais aussi des dessins et aussi des partitions. Il notait la musique, il notait les, notamment par exemple les chants bororo, les choses comme ça, il les note, c'est quelqu'un qui pouvait noter les transcriptions musicales.
Ouais. Frédéric, sur la question du terrain justement, Lévi-Strauss a été l'objet de critiques. Hein. Certains ont dit qu'il était en réalité un explorateur de bureau, préférant les livres aux indigènes. D'où vient le malentendu ?
Le malentendu vient du fait que Lévi-Strauss était dans le modèle de l'expédition, qui était celui de l'ethnologie française dans les années 30. Griol et Léris, au même moment, font une expédition qui va de Dakar à Djibouti pour collecter des objets. Lévi-Strauss fait exactement la même chose. Alors que s'est imposé en Angleterre au même moment le modèle du fieldwork, c'est-à-dire du temps passé en immersion dans une seule société.
C'est ça.
Comme Malinowski, qui s'est trouvé en fait par hasard chez les Trobriand du Pacifique pendant la guerre parce qu'il était polonais. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'on découvre dans la biographie d'Emmanuel Loyer, une lettre de Lucien Lévy-Bruhl, donc le fondateur de l'Institut d'ethnologie, auquel on reproche souvent d'être un anthropologue de cabinet, qui était philosophe à la Sorbonne, et qui dit à Lévi-Strauss, vous avez découvert le fieldwork, vous êtes bon en fieldwork, et donc ça devient un mot fieldwork qui prend à la fin des années 30. Et en même temps, si Lévi-Strauss n'avait pas été bon sur le terrain, Robert Lowy, spécialiste des sociétés d'Amérique du Sud, ne l'aurait jamais invité à New York en 1941, au moment où il devait quitter la France.
Oui. Emmanuel Loyer.
Oui, je pense que j'ai essayé de relayer un certain nombre de travaux qui réévaluent le terrain, mais aussi le statut du terrain, en fait, dans la formation d'ethnologue. Et Lévi-Strauss sait ce qu'est un terrain, y compris dans ses très grandes difficultés, dans sa détresse, parfois, qu'il raconte dans Triste Tropique. Et il sera ensuite toujours très attentif à ce que les étudiants en ethnologie fassent un terrain. Il le compare d'ailleurs assez fréquemment à une cure analytique. Et la nécessité du terrain pour devenir un ethnologue, il l'a vécu aussi dans sa chair à travers ce terrain qui était en effet une forme historique du terrain, c'est-à-dire cette expédition itinérante.
Allez, on va revenir ensemble dans un instant sur évidemment Triste Tropique, bien sûr, et puis la question des mythes et du structuralisme pour cette seconde émission autour de Claude Lévi-Strauss. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They tried to reason me, they couldn't wipe out my past. To save my child, I Woman avec Néné Chéri sur France Inter. Dans la tête au carré aujourd'hui, Lévi-Strauss, donc cette biographie qui sort chez Flammarion avec Emmanuel Loyer et Frédéric Hay, qui est nos invités donc cet après-midi pour retracer donc le parcours de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Et puis cet épisode new-yorkais qui a duré 6 ans quand même. Emmanuel Loyer, il part en 1941 dans des conditions évidemment particulières.
Oui, bah, il arrive comme exilé en 41 à la suite de ce qu'on sait, c'est-à-dire la guerre, les décrets anti-juifs, etc. Et il y reste jusqu'en 1947. Et c'est vrai que c'est un moment important dans sa vie et dans son œuvre.
Oui, il y a quelqu'un d'important, c'est Roman Jakobson qu'il va rencontrer en 42. Qui est-il ?
Alors, Jakobson, c'est un linguiste du Cercle de Prague, qui est aussi un de ces exilés qui a traversé toute l'Europe et qui arrive aux États-Unis en 1942 et qui est représentant, un des représentants de cette linguistique structurale ou phonologie qui, si vous voulez, pour aller très très vite, imagine la langue comme un système avec l'idée que les unités, si vous voulez, de base de la langue, les phonèmes, n'ont pas de signification en tant que telles, mais signifient par relation les uns avec les autres. Et donc, Lévi-Strauss va faire une espèce de greffe, si vous voulez, de cette phonologie, de cette linguistique structurale, sur ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire, enfin en ce moment, en 42,
à ce moment-là, ouais.
Il reprend sa documentation de terrain et il est en train d'essayer de débrouiller, enfin de terrain, pas seulement de son terrain, puisqu'en réalité c'est une documentation qui couvre le monde entier. Il est en train d'essayer de débrouiller les façons qu'on a de faire alliance dans le monde, c'est-à-dire de choisir son conjoint et sa conjointe. Et il essaie, si vous voulez, d'appliquer le type de pensée relationnelle qu'il y avait dans la linguistique sur l'anthropologie. Donc, ce qu'on va appeler ensuite l'anthropologie structurale est le résultat de cette fécondation qui s'applique, si vous voulez, dans un contexte à la fois le New York des réfugiés, mais aussi un contexte institutionnel dans cette extraordinaire institution qui s'appelle la New School for Social Research, où il y avait justement des exilés de disciplines différentes et qui dialoguaient ensemble. Et c'est vrai que, vraisemblablement, Lévi-Strauss n'aurait pas rencontré Jakobson à Paris et ailleurs.
La rencontre est absolument
essentielle. C'est pour ça que le structuralisme qui, disons, devient célèbre dans les années 60, après Triste Tropique, etc., en réalité, il naît véritablement historiquement de ce bouillon de la ville de New York pendant la guerre, avec ses exilés européens arrivés aux États-Unis, ayant quitté l'Europe dans des conditions dramatiques, et représentant de disciplines, de ces sciences sociales, mais aussi il y a des psychanalystes, des philosophes, etc., et qui vont se retrouver à dialoguer.
Et vous dites que Lévi-Strauss fait donc, à ce moment-là, à l'occasion de sa rencontre avec Jakobson, du structuralisme sans le savoir ?
Enfin, plus exactement, c'est lui qui le dit.
Frédéric Hay, on dit que Lévi-Strauss est le père du structuralisme. Alors, est-ce que c'est exact ou pas ? Vu oui, en fait, ce contexte décrit par Emmanuel Loyer à l'instant.
Comme Emmanuel vient de le dire très justement, ce qu'invente Lévi-Strauss, c'est cette greffe de la linguistique structurale sur les problèmes techniques de la sociologie et de l'anthropologie. Donc c'est effectivement l'idée que sur les problèmes de parenté, il faut considérer les relations qui sont signifiantes dans un système. Et pour ça, il faut faire une enquête, un peu sur le même modèle qu'un linguiste qui va essayer de voir, pour une langue, quels sont les termes qui s'opposent de façon signifiante. Par exemple, en espagnol, le B et le V ne s'opposent pas, alors qu'en français, ça s'oppose. De la même façon, dans nos systèmes, la cousine croisée et la cousine parallèle ne s'opposent pas. Dans des systèmes australiens, au contraire, c'est déterminant parce que ça permet de savoir si l'on peut se marier avec le clan du côté de la sœur ou avec le clan du côté du frère.
Et pourquoi alors justement le structuralisme prend aussi bien Emmanuel Loyer ? Parce que dans les années 60, il faut se rendre compte de ce que ça représente réellement.
Oui, alors on est 20 ans plus tard, mais juste pour... je crois que l'essentiel, c'est de comprendre que ce soit pour les structures de parenté ou ensuite pour les mythes, parce que ça va être les deux grands objets en réalité de l'anthropologie structurale. L'idée, comme si vous voulez, pour toute science sociale, c'est qu'il faut trouver des règles qui sont invisibles, en tout cas invisibles à l'œil nu, et qui émergent, si vous voulez, par l'enquête. Avec l'idée que les mythes, ont leur rationalité, comme les systèmes de parenté ont leur rationalité, mais sans que les acteurs en soient conscients. De même que vous pouvez très bien parler une langue sans être conscient des règles grammaticales. Donc on peut filer cette métaphore de la langue en disant que c'est une grammaire en fait des structures de parenté, de même que ensuite, sur les mythes, également une grammaire des mythes.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un triptyque, au fond, chez Lévi-Strauss, avec précisément les règles de parenté, les totems et les mythes ?
Alors, je pense pas triptyque, parce que je pense que les deux, massifs de son œuvre, c'est vraiment la parenté, et puis ensuite les mythologies.
Ouais. Frédéric Hayek.
Oui, alors, dans le vocabulaire marxiste, la parenté, c'est l'organisation sociale, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est une forme de droit avec qui on a le droit de s'allier. Et puis, les mythes, c'est ce qu'on appelle l'idéologie ou la superstructure. Quelles sont les formes à travers lesquelles on pense. Le totem, enfin, le problème du totémisme que Lévi-Strauss a dissous, selon sa formulation de 62, c'est en quelque sorte le niveau intermédiaire. C'est ce qui permet de passer de l'organisation sociale au système de pensée, parce que c'est les éléments de l'environnement auxquels on va prêter attention et qui, pour telle société, vont faire sens et pas pour un autre. Une société va faire attention au comportement d'un petit ours, une autre au comportement d'un aigle.
Alors, on voit quand même la complexité autour du structuralisme. Comment, justement, vous expliquez la popularité, quand même, de ce concept dans les années 60 ?
Alors, complexité, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que c'est une pensée aussi qui entend unifier, qui est très ambitieuse pour les sciences sociales, mais qui a aussi la séduction, je dirais presque esthétique, d'une très grande rigueur intellectuelle, mais aussi d'une pensée qui permet de concevoir l'humanité une, mais, disons, se déclinant dans la diversité. Donc, il y a, pour répondre plus précisément à votre question, il y a plusieurs choses, mais il y a cette séduction, disons, d'une théorie élégante qui permet de comprendre beaucoup de choses, si vous voulez, par quelques règles, par des typologies, etc. Et puis, je crois quand même qu'il y a aussi, évidemment, outre l'impact de Triste Tropique, la célébrité de Lévi-Strauss à ce moment-là, aussi des raisons politiques, c'est-à-dire que au début des années 60, alors que Lévi-Strauss n'est pas vu comme étant quelqu'un de l'extrême gauche, il est très clairement la figure, disons, de l'Indien, de l'Amérindien, va se substituer à celle du prolétaire et représenter pour une jeunesse étudiante une forme, je dirais, de figure comme ça à défendre et va pouvoir aussi... Ce qui est curieux, c'est que, encore une fois, il y a cette espèce de politisation du structuralisme qui fait que Lévi-Strauss est suivi par... des étudiants de gauche et tous les ethnologues sont de gauche. Quoi.
Quelle a été la destinée du structuralisme, Frédéric Hayek ?
Effectivement, le structuralisme, c'était cette alliance extrêmement séduisante pour la jeunesse des années 60, disons, entre le marxisme, donc une forme d'engagement politique anticolonial, la psychanalyse, donc une forme de connaissance de soi un peu secrète, un peu initiatrice, et puis le formalisme. Il y avait les mathématiques, la linguistique de Jacobson, c'était quand même assez ardu. Donc il fallait se mettre au travail pour se connaître soi et pour agir sur la société de son temps. Et puis il y avait effectivement cette figure du grand savant passé par l'Amérique, du Nord et du Sud. Donc tout ça a été très séduisant. Le destin du structuralisme ensuite, il a été très contesté parce que on lui a reproché beaucoup d'être un relativisme, de faire l'impasse sur le sujet, les droits de l'homme. Ensuite on lui a reproché d'être un formalisme, de ne pas donner sens à la subjectivité intérieure. Et puis ensuite on a considéré que c'était pour les modèles de ce qu'est pensée, que c'était un modèle cognitif pas assez substantiel, et donc on est allé chercher du côté de Chomsky, par exemple.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Il en reste des textes qu'il faut lire, il en reste un grand moment de la pensée française dont on essaye de prolonger le mouvement, et puis il en reste une méthode comparative qui est ce que véritablement peut apporter l'anthropologie et qu'aucune autre science ne peut apporter.
Emmanuel Loyer, aujourd'hui, le structuralisme en 2015, ça représente quoi concrètement ?
Si, ça représente, je crois qu'au contraire, là maintenant, il y a eu, c'est vrai que à la milieu des années 70, il est tombé dans une sorte de purgatoire, mais depuis une dizaine d'années, il est ressaisi par des pans de l'anthropologie, notamment de l'anthropologie brésilienne, autour de tout le travail, sur les Amérindiens, autour de certains anthropologues qui sont disciple ou pas disciple de Lévi-Strauss, mais je crois que surtout, on a très très mal lu Lévi-Strauss. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. C'est-à-dire qu'on en fait des grandes théories abstraites, etc. Alors que quand on lit, notamment Mythologie, c'est Proust, quoi, au sens où on plonge dans une forme d'empirie en même temps que de... C'est tout sauf formaliste de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on plonge dans un univers plein d'affects, plein de couleurs, plein d'odeurs, plein de... avec une érudition, une rigueur très grande, en même temps que, en effet, des méditations philosophiques, des montées en puissance théorique, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout une science, disons, objectivante, de surplomb, etc. C'est aussi, et c'est ça qui séduit beaucoup aujourd'hui, où on a une sorte de distance critique aussi vis-à-vis de tout ce qui est production scientifique, c'est que on voit un peu le structuralisme aujourd'hui, pour ceux qui s'en réclament encore, comme une sorte de, comment dire, de coproduction quasiment entre la science rationaliste occidentale et puis les théories indigènes. Ça marche surtout ça en Amérique du Sud où, comme le disait Lévi-Strauss lui-même, les bororos de toute façon sont d'esprit structuraliste.
Frédéric Keck.
Oui, le but de Lévi-Strauss était quand même de rendre compte de son expérience de terrain, et encore une fois, c'est un bon ethnographe, mais par le détour de ce formalisme qu'il a découvert aux États-Unis avec Jacobson, avec Boise aussi, dont on pourrait parler. Et de ce point de vue, il y a un destin un peu tragique de la science créée par Lévi-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale, c'est que la génération d'américanistes qu'il avait formée s'est effondrée. Et c'est plutôt des africanistes qui ont testé ces hypothèses, alors que il utilisait assez peu les matériaux africains. Il a fallu attendre la deuxième génération d'américanistes qui retournent sur le terrain pour tester ces hypothèses. Je pense à Eduardo Viveiros de Castro au Brésil, à Philippe Descola en France.
Oui.
Pour qu'on véritablement, on découvre que les mythologiques, c'est pas seulement beau, c'est vrai.
Ça marche. Oui, c'est ça.
Ça marche. Ça produit des résultats, ça permet de penser les sociétés d'aujourd'hui.
Autre récit proustien, c'est Triste Tropique. On en parle avec vous dans un instant.
I wrote a letter. I wrote a letter. I wrote a letter to the Lord, begging him to send the chords that would make you stay by my side. He sent an A minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, say I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. They call the pieces. There's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words. These are my lines, this is my prayer. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words, these are my lines, this is my prayer.
Letter to the Lord avec Fada Freddy.
Triste Tropique a été écrit en 4 mois.
et comme une sorte de pinsum dont il fallait absolument que je me débarrasse parce que je n'avais pas le goût de parler de moi, j'avais pas le goût de raconter des petites histoires, des petits détails de voyage. Et en même temps, je suis bien obligé de constater rétrospectivement qu'il y a dans Triste Tropique une certaine vérité scientifique et qui est peut-être plus grande que dans nos ouvrages objectifs, pour autant que ce que j'ai fait, c'est de réintégrer l'observateur dans l'objet de son observation. Et donc, ça n'est pas une relation objective de mes expériences ethnologiques, c'est une relation de moi-même en train de vivre ces expériences ethnologiques, et donc avec un tas de choses que je ne me serais jamais permis d'écrire dans un ouvrage à ambition scientifique.
Voilà, Lévi-Strauss, cette biographie chez Flammarion, Emmanuel Loyer, notre invité avec Frédéric Keck. Et effectivement, on n'est pas dans un ouvrage scientifique, on est dans une œuvre, dans un récit proustien, hein, avec Triste Tropique.
On peut parler de récit proustien parce qu'il y a 15 ans à peu près qui sépare l'expérience brésilienne de ce récit, qui forme le cœur de Triste Tropique. Et ces 15 années d'écart, c'est comme si elle permettait à Lévi-Strauss de finalement trouver le sens de ce qui s'était joué pour lui, de même que le narrateur chez Proust trouve le sens de cette... De ce retour du passé involontaire et lui donne la clé de sa vie à venir. Bon, ouais. Finalement, Lévi-Strauss, il avait déjà la clé de sa vie. C'était un programme savant. Mais là, avec Triste Tropique, c'est en effet la mise en scène de tout d'un coup cette révélation.
Frédéric Keck, on en avait parlé avec Vincent Deban ici, c'est son deuxième livre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une œuvre scientifique, on est dans un travail littéraire, précisément.
Oui, mais il y a quand même des éléments scientifiques dans Triste Tropique, puisqu'il reprend beaucoup d'éléments de sa thèse secondaire sur la vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara. Aussi sa publication sur les Bororos. Il y a des passages un peu difficiles. Donc,
il fait du copier-coller, quasiment.
Il fait du copier-coller, non, voilà. Ouais, mais effectivement, il y a ce geste des ethnologues français, à la différence de leurs collègues anglophones, d'avoir un livre plus scientifique et un livre plus littéraire. C'est le cas de Léry, c'est le cas de Griol, c'est le cas de Lévi-Strauss.
Les Indiens Nibikwara ont une place tout à fait particulière dans ce livre. Est-ce qu'il est retourné sur le terrain après, alors justement? Est-ce qu'il a revu ces Indiens ou pas?
Il est retourné au Brésil en 85, mais dans un contexte très différent dans un voyage présidentiel et il se passe quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il essaie, on organise pour lui un retour chez les Nambikwara avec un avion particulier, etc. Et il y a un orage, il manque de mourir, il ne peut pas atterrir et donc c'est un échec. Mais en même temps, il dira que d'avoir simplement survolé la forêt, d'avoir... comme ça, humer l'air, finalement, peut-être lui suffisait. Qu'aurait-il trouvé point d'interrogation.
En tout cas, il en avait une idée très précise quand même. En 84, il le disait au micro de Bernard Pivot.
Ils existent toujours, à ma grande surprise. Et ils n'ont pas perdu leur langue, ni d'après les cassettes que j'ai reçues il y a 2 ou 3 ans, leur musique traditionnelle. Seulement, le grand changement, c'est que quand j'étais au cœur de leur pays, un petit hameau de la ligne télégraphique hors d'usage qu'on avait installé aux environs de 1920, qui s'appelait Vilhena. À Vilhena, il y avait 15 habitants, 15 personnes, métis d'Indiens ou blancs. Il y a 60 000 habitants aujourd'hui à Vilhena. Alors les Nambikwara vivent, comme d'ailleurs... en Australie, les aborigènes, dans les faubourgs de ces villes, et dans un état, je ne dirais pas de clochardisation intégrale, parce qu'il y a tout de même des choses qui subsistent, mais dans cet état hybride entre le passé et le plus lamentable, le plus sinistre présent.
On sent une certaine tristesse, justement, Emmanuel Loyer, dans les propos de Lévi-Strauss, là.
Oui, mais qui est presque consubstantiel à la discipline ethnologique, le sentiment de sauvegarder ce qui est en train de mourir. Et il y a un seul moment où il a la surprise heureuse de trouver une vie indienne qu'il découvre pleine de vitalité, c'est au moment où il va au Canada, au milieu des années 70. Et ça contraste en effet avec le diagnostic qu'il fait là.
Oui. Le Canada, la Colombie-Britannique justement, Frédéric Keck, c'était extrêmement important aussi pour Lévi-Strauss. Ça a été son autre terrain d'exploration.
Ça lui a permis de se lancer dans une autre entreprise après celle des mythologiques, donc 4 volumes, 2000 pages, 800 mythes, quelque chose qui l'épuisait. Considéré que son œuvre était finie il y a 65 ans.
Oui.
Et puis, il va en Colombie-Britannique, il va au Japon également,
oui.
Et il découvre des petits mythes qui sont encore vivants dans les formes artistiques d'aujourd'hui. Et il écrit ce qu'il a appelé en 2008 ses petites mythologiques, donc la voix des masques,
oui.
La potière jalouse, l'histoire de lynx, qui sont véritablement des petites interventions dans le présent, toujours critiques par rapport à des questions de psychanalyse, de politique. Et donc là, on le voit revenir sur la scène de l'actualité, alors qu'avec les mythologiques, on pensait qu'il était justement dans le 19e siècle et plus dans les années 60.
Et le Japon, Emmanuel Loyer, effectivement, une terre de réenchantement pour Lévi-Strauss.
Oui, tout à fait. Là, c'est une grande histoire d'amour qui a commencé très tôt et qui, dans sa biographie, puisqu'il raconte qu'il était que petit, il collectionnait les estampes japonaises. On est là au début du 20e siècle, on est encore dans cette vogue des japonaiseries. Et c'est vrai qu'il va aller 5 fois au Japon, hein, il accepte des invitations. Et à chaque fois, c'est un enchantement. Alors, il aime ce pays. Alors, peut-être il le fantasme un peu, certaines personnes disent ça. Mais disons qu'en gros, il apprécie finalement quand même une sorte de coexistence possible, disons, entre une modernité et la conservation de traditions, d'us et coutumes, qui lui paraissent être une sorte de matelas protecteur pour les individus. Et c'est vrai que le Japon, à chaque fois, j'ai l'impression, dans sa biographie, fonctionne comme l'aide à vivre sur notre planète qu'il ne considère plus comme son monde à lui.
Sur la Colombie-Britannique, il y a un très beau livre qu'avait publié Lévi-Strauss sur les masques en particulier. Oui. Alors, vous parlez aussi de Lévi-Strauss et des femmes. Emmanuel Loyer dans ce livre, alors ça c'est assez intéressant.
Enfin, pas de révélation.
Non, pas du tout. Avec en particulier Marguerite Yourcenar. D'abord Lévi-Strauss à l'Académie française, c'est en 73.
Oui.
Et puis ensuite l'arrivée de Marguerite Yourcenar en 1980. Il y a deux femmes quasiment au même moment. Il y a Yourcenar et Françoise Héritier. Alors ils votent contre Yourcenar à l'Académie française et pour Françoise Héritier. Pour le Collège de France.
C'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai mis en scène ce
parallèle.
Ce parallèle parce que, et c'est pas qu'il vote contre Yourcenar, c'est qu'il est contre l'ouverture de l'Académie française aux femmes.
Hein, ouais, ben
chose qui se profile à la fin des années 70. Donc on dit, Lévi-Strauss, c'est vraiment un vieux misogyne, réactionnaire, etc. Et donc je voulais nuancer considérablement ce constat, parce que je pense pas du tout que Lévi-Strauss soit misogyne. Je pense que c'est plutôt une question d'institution. Et c'est pour ça que je fais ce parallèle, puisque c'est exactement contemporain. Je dis, s'il est si misogyne que ça... Certes, il s'oppose à l'ouverture de l'Académie française aux femmes, mais au même moment, il fait tout, et ça a créé quelques conflits, pour que Françoise Héritier lui succède, enfin lui succède, c'est pas comme ça au Collège de France, mais enfin en gros lui succède quand même, et à la direction du laboratoire d'anthropologie sociale.
Ouais.
Or, n'oublions pas que le Collège de France, en 1900, début des années 80, il n'était pas rigoureusement fermé aux femmes, mais il y avait une seule femme, c'était Jacqueline de Romilly. Donc, c'est simplement que, pour lui, l'Académie française, c'est une institution traditionnelle, c'est une sorte de club anglais...
Pour hommes.
Pour hommes, de sociabilité masculine, et que, au contraire, le Collège de France, c'est la science en marche, et là, il n'y a aucune raison que les femmes en soient exclues.
Et beaucoup de femmes au laboratoire d'anthropologie, d'ailleurs, Frédéric Keck, hein.
Oui,
du vivant de Lévi-Strauss, hein.
Tout à fait. Il y avait un binôme qui était Claude Lévi-Strauss et Isaac Kiva, qui en fait organisait une ethnologie de la France, assez inattendue par rapport à l'ambition comparative et exotique de Lévi-Strauss. Et il y a eu tout un groupe d'ethnologues femmes qui ont travaillé sur le village de Minot. Ces us et coutumes qui sont en train de se perdre.
Mais Françoise Héritier, c'est vraiment l'une des rares disciples, au fond, de Lévi-Strauss. On en parlait un peu avec vous
Françoise Héritier a repris le programme des structures élémentaires de la parenté pour voir, à partir de problèmes techniques, système chroma, dans les sociétés qu'elle a étudiées en Haute-Volta, Burkina Faso aujourd'hui,
ouais.
Passer au système complexe. Et pour ça, elle voulait utiliser les moyens de l'informatique et elle est arrivée à des thèses tout à fait importantes qui ont ensuite joué dans la discussion sur le féminisme, la domination masculine.
Ouais. Il y a d'autres femmes qui se manifestent parce qu'il faut dire évidemment que Lévi-Strauss est quelqu'un d'extrêmement populaire, de très célèbre. Je crois même qu'il a dit à l'occasion d'une émission qu'il n'avait pas de secrétaire. Alors ça fait partie des anecdotes qu'on peut lire dans votre livre, Emmanuel Loyer. Donc il reçoit énormément de courriers et il y a une jeune femme qui lui écrit et qui est devenue très célèbre, c'est Inès de la Fressange, qui a postulé pour être la secrétaire de Lévi-Strauss.
Oui, ça c'est une petite anecdote. J'ai trouvé dans la correspondance tout un tas de dames qui proposent leurs services comme secrétaire à titre bénévole, dont Inès de la Fressange.
Qui n'a pas été prise.
Qui n'a pas été prise parce qu'il lui répond que sinon il ne ferait que la contempler.
Voilà. Il a bien reçu les photos apparemment, d'Inès de la Fressange. Frédéric Keck, 2004, Antoine Gallimard propose à Lévi-Strauss, justement, pour le centenaire qui aura lieu en 2008, d'entrer dans la Pléiade, de figurer donc dans cette collection littéraire. À quel moment vous avez été justement amené à participer à ce projet, au fond ?
À peu près à ce moment-là, parce que je venais de soutenir ma thèse sur Lucien Lévi-Brulle, et donc l'histoire de ces rapports entre philosophie et anthropologie qui sont très spécifiques à la France autour de la question de la mentalité primitive, de la pensée sauvage. Et je lui avais envoyé ma thèse très poliment, comme tous ceux qui lui envoyaient leur publication, il m'avait répondu. Et puis, j'ai publié un petit livre sur la pensée sauvage. Il m'a envoyé une lettre de critique assez sévère, notamment sur mes mauvaises interprétations de la place du carcajou et de la sauge dans les systèmes de classification totémique.
Ouais.
Et puis ensuite, il a proposé que j'édite donc les textes de 62.
Et donc, la Pléiade, c'était évidemment choisir les textes littéraires de Lévi-Strauss. Ce qu'il a fait tout seul ?
C'est lui qui l'a fait avec Antoine Gallimard.
Ouais.
Alors, ce qu'on peut mentionner, c'est que en 2008, c'était pour le centenaire, donc on a dû travailler très vite.
Ouais. 2004-2008.
On y est arrivé pour le centenaire, et puis il y a eu cette grande célébration. Et là, effectivement, c'était une forme de canonisation. Le musée du Quai Branly a fait, en son honneur, une lecture par 100 personnes importantes de ces textes. Ouais. Donc il y a eu un moment, c'est vrai qu'on était, au début des années 2000, on était quelques jeune philosophe à lire Lévi-Strauss et à le redécouvrir. Et puis, il y a eu cette consécration là en 2008-2010.
Ouais. Avec un succès considérable pour cette Pléiade, Emmanuel Loyer, quand même. 30 000 exemplaires, c'est ça, à peu près ?
C'est ce qu'on m'a dit chez Gallimard.
Ouais.
C'est toujours très secret, ces chiffres.
Ouais.
Mais c'est aussi... D'ailleurs, c'est étonnant, parce que là, viennent d'être publiés deux volumes de Foucault dans la Pléiade. C'est intéressant de voir le statut aujourd'hui des sciences sociales qui apparaissent comme, finalement, faisant partie d'un corpus qui était un corpus exclusivement littéraire. Mais donc, c'est encore une fois un autre fil rouge de cette vie, je crois, c'est ce rapport entre science et littérature. Il est assez inclassable. Ce partage entre science et littérature, est décalé dans son œuvre.
Et donc, un an plus tard, Lévi-Strauss décède. C'était en octobre 2009 et sa mort a été annoncée à la presse alors qu'il venait d'être enterré.
Oui, parce qu'il souhaitait, sinon il n'aurait pas échappé aux obsèques nationales. Il était grand croix de la Légion d'honneur, donc tout avait été soigneusement préparé à la fois par ses soins et surtout par ceux de sa femme. Et il a voulu un enterrement dans la stricte intimité familiale, dans le village de Lignerolles, là où il avait sa maison de campagne en Bourgogne.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir participé à ces deux émissions donc autour de Lévi-Strauss, cette biographie donc chez Flammarion, Emmanuel Loyer. Et puis on peut signaler Frédéric Keck, Claude Lévi-Strauss, L'homme au regard éloigné avec Vincent Demane dans la collection Découverte chez Gallimard. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique ainsi qu'à Céline Hilla qui réalisait aujourd'hui cette émission. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve demain pour la suite des dossiers de La Tête au Carré.